Tout de suite, le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrirons évidemment ce journal avec l'annonce donc ce matin de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale censée donner un nouvel élan à l'exécutif. 8 nouveaux membres au total, parmi lesquels Christophe Castaner, pilier de la Macronie qui succède au premier flic de France. Jacqueline Gourault remplace pour sa part Jacques Mézard au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et puis on citera également le député de centre droit Franck Riester qui vient remplacer la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Décryptage à suivre avec Frédéric Seyss et Anne Focambert, mais aussi invité de ce journal, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Et dans votre édition également, les inondations de l'Aude qui ont fait, selon un dernier bilan, 11 morts et 3 disparus et touché plus de 70 communes, Thomas.
Et cet épisode méditerranéen, comme on l'appelle, figure parmi les intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années. Une catastrophe dont l'origine n'est pas seulement naturelle, mais aussi, et pour une très large part d'ailleurs, due à la main de l'homme, nous dira Véronique Robert-Hott.
La France est-elle complice de la répression sanglante à l'œuvre en Égypte?
C'est en tous les cas ce qui ressort d'un rapport d'Amnesty International publié aujourd'hui, dans lequel il apparaît que les forces de sécurité égyptiennes utilisent essentiellement des armes françaises. Précision de Nathanaël Charbonnier. Puis avec Franck Madvon, nous analyserons l'arrivée aujourd'hui à Riyad du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui doit tenter de faire la lumière sur la disparition depuis 2 semaines du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Larmes et affects partout. Aujourd'hui, nous recevons la journaliste et professeure Anne-Cécile Robert pour son essai « La stratégie de l'émotion » qui paraît chez Lux Éditions.
Merci, à tout à l'heure. L'attente aura donc été longue, pas moins de 15 jours, un record. Et après 2 semaines de discussions au plus haut sommet de l'État d'un côté et de supputations médiatiques en tout genre de l'autre, l'annonce est donc finalement tombée peu avant 10h ce matin avec 8 nouveaux membres. L'Élysée accouche du premier remaniement d'ampleur de ce quinquennat. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Avec cette équipe renouvelée, cette équipe serait, selon les propres mots de l'Élysée, dotée d'un second souffle. Est-ce que la composition de ce gouvernement, en termes d'équilibre, hommes et femmes, professionnels de la politique, membres de la société civile, mais aussi droite et gauche, est susceptible de donner en effet un nouvel élan à l'exécutif?
Alors ce n'est pas une révolution, Thomas, même pas une évolution. Les proches d'Édouard Philippe assument un gouvernement de continuité où les équilibres sont maintenus. Alors faisons les comptes. À l'aile gauche du gouvernement, Christophe Castaner, ancien du PS, promu donc ministre de l'Intérieur, plus Didier Guillaume à l'agriculture, sénateur ancien socialiste, et Gabriel Attal, député La République En Marche, lui aussi issu du PS, nommé secrétaire d'État à la jeunesse. Le Modem est un peu mieux représenté avec l'arrivée de Marc Fesneau, qui devient ministre des Relations avec le Parlement. Le centre-droit, enfin, avec l'arrivée de Franck Riester, qui était jusqu'ici député de centre-droit à l'UDI. Il est désormais ministre de la Culture. Les ministres issus de la droite, par ailleurs, qui étaient déjà au gouvernement, progressent dans le rang protocolaire. Gérald Darmanin, au budget, passe ainsi de la 14e à la 10e place. Et puis toujours des personnalités issues de la société civile, comme l'on dit, ici venue en réalité des grands groupes. Emmanuelle Wargon, jusqu'ici directrice des affaires publiques du groupe Danone, devient secrétaire d'État auprès de François de Rugy, ministre de la Transition écologique, le seul ministre d'État d'ailleurs de la nouvelle équipe. Agnès Pannier-Runacher était-elle à la tête de la Compagnie des Alpes? Elle sera secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Et puis évoquons les partants, ceux qui n'avaient pas imprimé leur empreinte à la culture. Françoise Nyssen est remplacée par Franck Riester, bon connaisseur des dossiers de l'audiovisuel notamment. À la cohésion des territoires, Jacques Mézard laisse sa place à Jacqueline Gourault. Elle était déjà au gouvernement chargée en particulier du dossier Corse. L'Élysée veut aussi relancer ses relations avec les collectivités locales. Elle sera donc secondée, Jacqueline Gourault, par 2 ministres, Sébastien Lecornu et Julien de Normandie, un homme de confiance d'Emmanuel Macron, un autre d'Édouard Philippe. Et puis à l'agriculture, Stéphane Travert rend son tablier au profit donc de Didier Guillaume, l'ancien sénateur socialiste. Dernier départ, une secrétaire d'État, Delphine Gény-Stéphan, qui était à Bercy, on le voit, l'exécutif, profite donc de l'occasion de la démission de Gérard Collomb pour régler d'autres problèmes.
Merci Frédéric Seyss. Alors le principal changement de ce remaniement ministériel, c'est évidemment la nomination de Christophe Castaner, jusqu'à présent secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, au poste de ministre de l'Intérieur. À 52 ans, ce macroniste de la première heure se retrouve ainsi récompensé pour sa totale loyauté envers le chef de l'État. Anne Focamberg, bonjour.
Bonjour.
Et les choses n'ont pas traîné puisqu'au ministère de l'Intérieur, la passation avec Édouard Philippe a déjà eu lieu.
Première passation de ce nouveau gouvernement, elle était attendue 2 semaines après le départ fracassant de l'ex-ministre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Passation très courte, d'à peine 10 minutes, pour marquer l'importance du sujet de la sécurité des Français. Un droit fondamental, selon Christophe Castaner, qui s'est exprimé donc juste après Édouard Philippe.
Vous avez, monsieur le Premier ministre, rappelé combien pour ce gouvernement la sécurité était un sujet de préoccupation majeure, mais comment il était aussi un sujet d'engagement total, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue politique. Je sais votre attention, je sais l'exigence du président de la République au quotidien pour que ce droit fondamental soit garanti.
Christophe Castaner qui est déjà au travail avec son secrétaire d'État Laurent Nunez. Ils sont actuellement en Seine-Saint-Denis au Lila. Prise de contact et échange avec les policiers dans un contexte tendu. La mort d'un adolescent de 13 ans samedi dernier roué de coups par un groupe de personnes mineures. Politiquement, on va voir si ce duo fonctionne. D'un côté, la personnalité chaleureuse, affable de Christophe Castaner, bien qu'il soit peu expérimenté sur ce champ des questions de sécurité. De l'autre, un homme de l'ombre, Laurent Nunez, ex-patron du renseignement intérieur, fin connaisseur des rouages policier. Christophe Castaner qui va par ailleurs démissionner de ses fonctions de délégué général de La République En Marche. C'est ce qu'il a précisé lors de la passation de pouvoir avec son successeur aux relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Christophe Castaner, le marcheur de la première heure, devient plus que jamais le pilier de la Macronie parce qu'avec l'intérieur, il prend aussi la main sur le redécoupage des circonscriptions électorales.
Et puis parmi les nouvelles personnalités, cette fois-ci entrée ce matin au gouvernement, Anne-Franck Riester, 44 ans, militant de la droite disons modérée, succède à Françoise Nyssen au ministère de la Culture, une nomination à fort symbole politique, en particulier à l'approche des élections européennes.
Oui, la passation, elle, sera organisée en début d'après-midi à 13h30 dans les salons du ministère, rue de Valois. Un homme politique de métier pour remplacer Françoise Nyssen, issue de la société civile et qui n'a jamais réussi vraiment à s'imposer au ministère de la Culture. Franck Riester, 44 ans, qui a toujours été un militant, puis un élu ambitieux à droite, mais depuis un an en rupture avec son parti, le Parti Républicain. Il a créé l'année dernière sa propre formation Agir, un parti bienveillant à l'égard du président de la République. C'est donc ici une forme de reconnaissance pour ce spécialiste de la culture, député depuis 2007. Il a quasiment toujours dirigé ou participé aux travaux de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée. Franck Riester, qui sous le quinquennat Sarkozy a même été le rapporteur des projets de loi Hadopi 1 et 2 sur la propriété intellectuelle. En 2011, il est aussi le co-rapporteur d'un texte sur la création musicale. Ex-maire de Coulommiers en Seine-et-Marne, il devrait être à l'aise avec les dossier en cours, rue de Valois, notamment la réforme de l'audiovisuel. Il y a quelques heures encore, il était le co-président du club parlementaire sur l'avenir de l'audiovisuel et des médias. Et puis en 2015, il avait été l'un des premiers à demander la création d'une BBC à la française avec un rapprochement de France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Arte et Lina.
Merci Anne Fauquemberg. Et toujours pour commenter ce remaniement, invité de ce journal, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avant de céder la parole à Frédéric Saïs, les réactions évidemment ce matin n'ont pas tardé, notamment du côté de l'opposition. Après avoir déploré l'affaiblissement du président ces derniers mois, l'opposition dénonce l'absence d'ambition de ce remaniement. Est-ce que vous aussi, vous diriez en somme tout ça pour ça ?
Oui, on peut citer le film de Claude Lelouch, surtout après cette très longue gestation. On sait que d'une manière générale, un remaniement hors entrée d'une personnalité très forte, d'une véritable prise de guerre, ne change pas grand-chose à une situation d'impopularité pour un président de la République. On a vu sous Nicolas Sarkozy avec un remaniement qui avait également duré quasiment 6 mois entre les régionales de 2010 et la rentrée avec le match Fillon-Borloo, sous François Hollande également, et très très clairement dans le contexte d'angoisse sociale que vivent les Français. Les Français se situent beaucoup plus sur une logique de résultat que sur une logique de personne ou sur une logique de casting. Je nuancerai pour autant les critiques de l'opposition, car comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Saïs, on est sur une vraie continuité avec les grands équilibres, les grands fondamentaux de la composition du gouvernement Édouard Philippe 1 et 2, c'est-à-dire équilibre entre personnalités issues du monde des élus et de la société civile, même s'il y a un renforcement des élus et je dirais des élus implantés localement, c'est un vrai point faible pour la Macronie, la protestation très forte des territoires ruraux, et puis un équilibre entre personnalités venant de la gauche et de la droite avec des proches d'Édouard Philippe promus, des proches d'Emmanuel Macron. On est sur un véritable équilibre, ce qui manque peut-être pour, je dirais, démultiplier l'effet de ce remaniement. Il n'y a pas encore d'enquête qui ont été lancées. C'est sans doute et avant tout une parole présidentielle. On a eu beaucoup d'images qui ont je dirais, décontenancé beaucoup de Français, et pas de son et pas de remise en perspective de l'action présidentielle.
Une question de Frédéric Saïs.
Alors, en quelques mois, on a vu les sondages de confiance baisser drastiquement pour Emmanuel Macron. 50% de confiance au début de l'année, désormais moins d'un tiers, moins de 30% des Français qui lui accordent leur confiance. Dans quelle catégorie de population, sociologique, d'âge, a-t-il le plus perdu ?
Très clairement, chez les retraités. Un segment de droite, mais qui avait cru à la promesse macronienne et au sein duquel le président s'est effondré. Pas avec la hausse de la CSG, parce que les retraités nous disaient dans nos enquêtes que c'était dans le programme présidentiel. Ils avaient apprécié au mois d'avril qu'Emmanuel Macron les remercie lors de son intervention télévisée sur TF1 au mois d'avril. Là, c'est clairement les doutes sur les pensions de reversion et puis surtout cette désindexation des pensions. Dans une enquête IFOP pour CNews extrêmement simple, on voit que 98%, on n'est pas sur la marge d'erreur, hein, des retraités se vivent comme les perdants du quinquennat. Et également, deuxième perte dans la France du travail. Un peu comme ce qu'avait connu Nicolas Sarkozy en 2007-2008, c'est-à-dire une France qui a cru à la promesse de pouvoir d'achat, la baisse des cotisations, et qui a le sentiment, à gauche et pas que la politique menée, les réformes menées sont réelles, mais elles ne bénéficient qu'aux ultra-riches, au premier de cordée.
Alors quand on entre dans le détail de ce remaniement, on voit malgré tout qu'il y a trois ministres qui sont issus de la gauche, qui sont soit promus, soit nommés, Christophe Castaner à l'intérieur, Didier Guillaume, et Gabriel Attal, qui au passage est d'ailleurs le plus jeune ministre de l'histoire de la 5e République.
François Baroin, je crois.
29 ans, il le dépasse de quelques mois, précisément, on a regardé tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie d'un rééquilibrage? On a beaucoup parlé d'une jambe gauche, est-ce que là, voilà, on a un peu musclé cette jambe gauche?
Alors là où le bât blesse de la jambe, si je puis dire, c'est que ce sont des ministres extrêmement peu connu. Même Christophe Castaner, il est dans le champ politique, il est visible pour les Français depuis les régionales de 2015. C'était la tête de liste en Provence à la Côte d'Azur. Dans le baromètre IFOP fiduciaire pour match, 45% des Français déclarent ne pas le connaître suffisamment. Il n'y a pas une prise de guerre à gauche extrêmement connue, mais c'est vrai que pour différents observateurs, pour la majorité présidentielle, pour le début, non pas d'une fronde, mais d'une protestation de députés marcheurs issus de la gauche, c'est une manière de montrer promotion de Franck Riester d'un côté, et puis des personnalités issues du PS de l'autre.
Rapidement peut-être, la question des ministres issus de la société civile, c'était un grand marqueur d'Emmanuel Macron, mettre des gens, entre guillemets, compétents au poste, pour en finir avec une habitude trop régulière de faire changer de portefeuille, de chaise musicale des professionnels de la politique. On voit que Françoise Nyssen, ancienne éditrice, est exclue de ce gouvernement. Il y a deux entrées qui sont assez faible. Est-ce que c'est la fin de cette mode, ou en tout cas de cet affichage de la société civile?
En tout cas, cette mode ou cet équilibre reste respecté, puisqu'il y a Laurent Nunez, Emmanuel Wargon et Agnès Pannier-Runacher.
Patron des services de renseignement intérieur,
mais hein, Laurent Nunez. C'est moins société civile pour les Français que expert. Dans l'imaginaire des Français, le gouvernement idéal, c'est mettre une sportive au sport, un médecin à la santé ou une DRH à l'emploi. On a vu la limite en termes de poids politique dans différentes crises qu'ont pu connaître Françoise Nyssen, Nicole Belloubet qui a conservé son portefeuille. Mais de ce point de vue-là, l'équilibre macronien est respecté. Mais avant tout, avant de parler d'équilibre, de dosage, les Français veulent que les choses bougent, veulent des résultats et veulent une remise en perspective de l'action du quinquennat.
Merci Frédéric Dabi, directeur général adjoint, je le rappelle, de l'IFOP, d'avoir été en direct avec nous, et merci à Frédéric Saïs. Et puis, à peine nommé au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner a donc d'ores et déjà été interpellé ce matin par Jean-Luc Mélenchon après que son domicile, mais aussi le siège de la France Insoumise, a été perquisitionné ce matin. Perquisition qui s'inscrive dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Paris. Jean-Luc Mélenchon qui dit ne rien avoir à craindre concernant ses comptes de campagne. Une montée des eaux aussi rapide qu'exceptionnelle, des torrents d'eau boueuse enjambant la chaussée, des routes rendues impraticables par la chute des arbres, des champs complètement inondés, sans oublier ce bilan humain, 11 morts et 3 personnes toujours portées disparues sous l'une des intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années. Autant d'images et de décomptes macabres qui nous renvoient le plus souvent à des contrées lointaines sur lesquelles nous daignons au mieux jeter un œil condescendant. Et pourtant, face à l'inégalité des victimes de catastrophes naturelles devant le traitement médiatique, eh bien le drame de l'Aude vient nous rappeler combien ces catastrophes sont en réalité avant tout humaines avant d'être d'origine naturelle. Véronique Robérode, bonjour.
Bonjour.
Au-delà du fameux dérèglement climatique, l'aménagement anarchique de l'espace et la modification qu'elle introduit dans le cycle naturel de l'eau sont autant de facteurs nécessaires pour expliquer ces inondations meurtrières.
Alors rappelons tout de même que ces pluies sont arrivées dans un territoire déjà en grande partie saturé par des pluies la semaine dernière. Cette situation de saturation hydrologique a eu pour effet immédiat eh bien, de voir réagir les cours d'eau et leurs affluents en excès, de les faire déborder sur tout un territoire. Partout, dans une zone où des orages brefs, très localisés, accompagnés de vents violents, ces épisodes méditerranéens, cévenols, ne sont pas rares. Ils provoquent régulièrement des crues éclairs et des inondations. Mais là, à cause de la combinaison de plusieurs phénomènes météo, tout s'est emballé dans des zones inondables. C'est une réalité. Ces maisons où l'eau est montée à 3, 4, 5 mètres sont construites en zone inondable. Avec cela va de pair, surtout des sols complètement bétonnés où l'eau ne pénètre pas dans le sous-sol. L'hôpital de Carcassonne, gravement touché, est lui-même en zone inondable. Il a été inauguré pourtant l'été dernier. Assurément, une erreur à ne pas reproduire. Alors que faire en urgence? Protéger l'humain avant tout. Une des réponses après la tempête Cynthia et ses 29 morts pris au piège dans leur maison. Cela avait été d'en détruire quelques-unes et aussi de créer des zones refuges, notamment des premiers étages dans les maisons, déconstruire aussi face à des phénomènes amenés peut-être à se reproduire et se renforcer.
Et puis alors s'ajoute une autre question, Véronique, qui renvoie là encore à la responsabilité de l'homme. Y a-t-il eu des manquements en termes d'alerte?
Alors d'un côté, il y a des habitants qui expliquent qu'ils n'ont pas été alertés de la gravité du phénomène, de ne pas l'avoir appréhendé comme il aurait fallu, et l'État, de l'autre côté, avec Météo France, qui estime avoir fait le nécessaire en déclenchant l'alerte orange, puis l'alerte rouge, alors que les pluies diluviennes stagnaient sur la zone. Alors problème, comment revoir à la hausse une alerte en pleine nuit? Agnès Buzyn expliquait ce matin que c'était compliqué de toucher les gens dans leur sommeil. La ministre de la Santé qui renvoie à une nécessaire culture du risque dans notre société.
Il faut évidemment maintenant que toutes les communes prennent la mesure des risques météorologiques. Il y a un défaut de vigilance globale, une sorte d'habitude. Quand nous voyons aujourd'hui les alertes orange de Météo France, ça peut être du vent, ça peut être des orages, ça peut être la canicule. Et donc, chaque département peut être 5 à 10 fois par an mis en alerte orange. Et peut-être qu'il y a un niveau d'alerte des résidents de ces départements insuffisant. Il va peut-être falloir revoir cette grille d'alerte. Mais en l'occurrence, pour ce phénomène-là, il était imprévisible d'après Météo France parce qu'il faut que la pluie commence à tomber pour qu'on réalise en fait la quantité d'eau qui va être amenée à être déposée sur le sol.
Un plan de lutte contre les crues, les épisodes cévenols est en cours quand même d'élaboration. Il prévoit une meilleure préparation des habitants. Un super aussi calculateur de risque météo doit être mis en service aussi en 2020 pour tenter de mieux anticiper, mesurer ces phénomènes.
Merci Véronique Robérode. Elle avait dupé la justice, les associations de victimes, mais aussi les médias. Après 3 années d'affabulation, Alexandra Damien, qui a reconnu être une fausse victime des attentats djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, a été condamnée aujourd'hui à 6 mois de prison ferme. Privilégier l'éthique ou un partenariat stratégique? La question est évidemment fondamentale lorsqu'il s'agit de mettre en exergue les limites des ventes d'armes entre États. À ce titre, le constat dressé ce matin par Amnesty International est accablant. Dans un rapport de 60 pages, l'organisation démontre que les forces de sécurité égyptiennes utilisent essentiellement des armes françaises pour réprimer de manière sanglante l'opposition. Alors pour aboutir à ce constat, Amnesty a visionné des heures de vidéos, épluché des centaines de photos ou encore décrypté des gigas de données informatiques. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Ce rapport vient donc une nouvelle fois poser la question de savoir si un pays, en l'occurrence la France, en devenant le premier fournisseur d'armes de l'Égypte, se rend complice ou non de la dictature égyptienne.
Oui, le 14 août 2013, la France, à travers la voix de Laurent Fabius, condamne les violences survenues en Égypte et demande l'arrêt de la répression. Mais voilà, cette répression, elle se fait avec des véhicules blindés vendus par la France et notamment par la société Renault Trucks Défense. C'est l'un des exemples cités par Amnesty qui pose, vous avez dit, tout simplement la question de l'hypocrisie en politique et qui pour ce faire avance chiffré de 9 millions d'euros en 2011. Les ventes d'armement français depuis cette date n'ont cessé de progresser pour atteindre 1,3 milliard en 2016, soit 25% du volume total des exportations du secteur. Avions, navires, missiles, armes, munitions, blindés, assistance, la France France vend toutes sortes d'armes. Elle semble le faire en flirtant avec la légalité, accuse Amnesty. Le secteur est en effet très encadré. On ne peut pas vendre des armes à un pays si l'on craint un détournement de leur utilisation, comme c'est le cas dans le dossier égyptien. La France a en effet vendu des armes à l'armée égyptienne, mais c'est la police égyptienne qui les a utilisées. Chacun dans le dossier plaide sa bonne foi. Les sociétés françaises concernées expliquent qu'elles ont vendu leurs armes avec la bénédiction de l'État français. L'État français lui explique qu'il a accepté de signer les autorisations de vente au nom de la lutte contre le terrorisme. Bref, c'est le chat qui se mord la queue. Reste alors la réalité pour Amnesty. Oui, des Égyptiens sont morts. Et oui, les autorités égyptiennes ont réprimé la révolution avec des armes made in France.
Merci Nathanaël Charbonnier. Les dangers de la course à l'armement, toujours et encore. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite, deuxième importateur mondial, représente un marché particulièrement lucratif pour les Occidentaux, quitte à fermer les yeux non seulement sur les violations de Riyad en matière de droits de l'homme, mais aussi leur utilisation possible dans le conflit yéménite. Ou quand la réalpolitik, là encore, se heurte à des considérations purement économiques. Et à ce titre d'ailleurs, l'affaire Khashoggi apparaît aujourd'hui assez symptomatique de la frilosité des partenaires de Riyad, trop inquiets à l'idée de se fâcher avec le prince Ben Salman, dont les projets économiques pharaoniques attisent bien des convoitises. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Riyad, où il est actuellement reçu par le roi, et a priori l'objectif ne sera pas de tenser l'Arabie Saoudite. Franck Madvon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Selon toute vraisemblance, les deux partenaires devraient s'entendre sur une version qui permette à la fois d'admettre enfin l'évidence que le journaliste a bien été tué dans l'enceinte de la mission diplomatique à Istanbul, mais tout en déchargeant Riyad de toute responsabilité.
Oui, c'est ce qui semble se dessiner. Hier, Donald Trump lui-même a préparé le terrain. Le président américain a annoncé avoir parlé au téléphone avec le roi Salman d'Arabie Saoudite, et il a avancé la thèse de tueur solitaire hors de contrôle. Trump semble ainsi enclin à exonérer le pouvoir saoudien de toute responsabilité. Pour lui, le roi Salman n'était au courant de rien dans l'affaire Khashoggi. Un peu plus tard, des sources saoudiennes ont parlé à des médias américains. CNN et le New York Times croient ainsi savoir que Riyad s'apprête à reconnaître que le journaliste saoudien a été tué lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné. Impossible de vérifier ces informations, mais une thèse s'impose, celle donc d'un commando saoudien qui avait pour mission d'interroger Jamal Khashoggi, mais qui serait allé trop loin, qui n'aurait pas respecté les ordres. Cette version du dérapage, en fait, arrange tout le monde. Elle protège d'abord le prince saoudien, Mohamed Ben Salman, et lui évite d'être en première ligne dans l'affaire. Elle permet ensuite à l'administration Trump de continuer à entretenir d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite, notamment du point de vue économique, en échappant aux critiques des ONG sur les droits de l'homme. Et elle satisfait enfin la Turquie qui traverse, on le sait, une grave crise économique et espère profiter de prêts saoudiens à des conditions très favorables. Les proches de Khashoggi, eux, ne croient pas à cette version. Ils rappellent que Riyad nie toute implication depuis deux semaines, en affirmant notamment que le journaliste avait bien quitté le consulat. Ils soulignent aussi que la Turquie a fait transpirer des informations accablantes. À Riyad, aujourd'hui, l'Américain Mike Pompeo devra aussi répondre à ses doutes, à ses interrogations.
Merci Franck Mattevant. Et puis toujours sur cette affaire, j'ajoute par ailleurs que l'ONU a réclamé aujourd'hui la levée de l'immunité des responsables saoudiens impliqués. De leur côté, les proches de Jamal Khashoggi ont demandé la formation d'une commission d'enquête internationale. Enfin, les équipes turques et saoudiennes chargées de l'enquête en cours ont eux quitté ce matin le consul saoudien d'Istanbul après 9 heures de perquisition. Voilà des commentaires qui risquent de troubler quelque peu les négociations entre Washington et la Corée du Nord, en particulier sur la tenue d'un second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ce matin, les médias officiels nord-coréens ont vertement attaqué les États-Unis pour leur volonté, je cite, « maléfique de maintenir les sanctions contre Pyongyang », accusant de facto le président américain donc d'empêcher les relations intercoréennes de progresser. Après que les États-Unis avaient reconnu officiellement Jérusalem comme capitale de l'État hébreu en décembre de l'année dernière, l'Australie s'était montrée ferme à l'époque dans son intention de ne pas suivre le mouvement de Washington. Visiblement, Canberra a changé d'avis ce matin. Le Premier ministre a déclaré être prêt à envisager non seulement de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, mais aussi d'y transférer son ambassade. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Encore pluvieux près de la Méditerranée, partout ailleurs du soleil. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 16 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.